BW. Droits et libertés.
Le 20 novembre de cette année, la Convention relative aux droits de l'enfant aura 30 ans. C'est le tout premier traité international adopté par les États membres des Nations Unies qui reconnaît et s'engage à protéger les droits universels de tous les enfants du monde. Alors malgré des améliorations certaines, en 30 ans, il y a encore de nombreux domaines et des situations dans lesquelles il faut se battre pour faire reconnaître ses droits, par exemple devant les tribunaux. Alors on va parler cette semaine d'une session de formation pour juristes et magistrats d'Afrique de l'Ouest qui se tient en ce moment à Dakar. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Droits de l'enfant et droit international des droits de l'homme, voilà le libellé officiel de la session délocalisée qui se tient en ce moment à Dakar. Organisée par la Fondation René Cassin, la Fondation allemande Friedrich Naumann pour la liberté et l'Institut international des droits de l'homme. Ces institutions s'associent depuis plusieurs années maintenant pour dispenser des formations en direction des professionnels du droit en Afrique en lien avec les droits de l'homme. Il y a eu déjà cette année plusieurs modules organisés à Ouagadougou, à Bamako, à Yaoundé, en Argentine, au Liban, en Haïti et au Niger. 142 personnes participent à la session actuelle en provenance du Sénégal et des pays voisins. Ce sont des juristes donc, des avocats, des magistrats, mais aussi des fonctionnaires, des représentants d'ONG et des universitaires. Et parmi ceux qui dispensent les ateliers de formation pendant ces deux semaines que dure la session, il y a Bachak Etkin, une juriste qui préside l'association du Centre de recherche sur les droits de l'homme à Paris. C'est une association qui aide les diplômés en droit de l'université d'Assas et qui les forme au concours de plaidoirie et aux simulations en droit de l'homme. Et c'est justement de cela qu'il s'agit aussi à Dakar. Donc, les participants sont soumis à un exercice pratique durant les deux semaines. Bachak Etkin, qui détient un master en droit international des droits de l'homme, est aussi doctorante rattachée au Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Et à Dakar, elle dispense une formation en plaidoirie aux participants. Nous avons pu la joindre pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Bachak.
Bonjour.
Alors, pourquoi est-ce que des juristes doivent être sensibilisés aux droits de l'enfant 30 ans après l'adoption de la Convention de l'ONU et quels sont les besoins exprimés par les participants ?
Les enfants, c'est notre avenir. Donc pour arriver à créer un monde où il n'y a plus de violation des droits de l'homme, il faut investir et privilégier dans les droits de l'enfant. Ils sont plus sensibles et donc les premiers à souffrir d'une situation de violation généralisée des droits de l'homme. Les travaux du comité des droits de l'enfant nous prouvent qu'on a encore beaucoup de chemin à faire.
Donc on l'a dit, à Dakar, les participants font un exercice pendant deux semaines. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Alors l'exercice proposé, c'est un cas pratique rédigé par moi et un collègue. Ça raconte l'histoire d'un État fictif qui traverse une période de conflit armé pendant lequel il y a un conflit armé non international, hein, pendant lequel il y a des enfants soldats recrutés et dans l'armée de l'État et du côté des dissidents. Et donc il y a une première question là-dessus. Puis ensuite, il y a les conditions de détention des enfants capturés. Et ensuite, post-conflit, il y a une réforme mise en place, pour unifier l'État après le conflit. Et il y a une discrimination envers la minorité ethnique au niveau de l'éducation nationale, que ce soit par la langue et dans l'histoire du pays. Et enfin, les enfants qui n'arrivent pas à intégrer l'éducation nationale pour des problèmes de langue finissent par travailler. Et donc, il y a un quatrième cas sur le travail des enfants. Tout ça est complètement fictif, bien évidemment, mais ce sont des choses qui peuvent arriver partout dans le monde et dont on a vu des exemples en Afrique et au-delà.
Et est-ce que vous abordez différemment la protection des droits des filles et des droits des garçons ?
Dans le cas qu'on présente, il n'y a pas de violation qui vise particulièrement les filles ou particulièrement les garçons. Le travail des enfants n'a pas de sexe. La discrimination à l'éducation n'a pas de sexe. Donc, dans notre cas précis, non. Mais effectivement, on sait que dans la vraie vie, que ce soit l'excision ou le mariage forcé, on sait que les filles sont plus vulnérables parfois aux violations des droits de l'homme.
Bon, et pour en revenir plus à la formation de Dakar, vous dispensez des cours de plaidoirie. À quoi est-ce que ça ressemble ?
Le séminaire des plaidoiries s'organise de la façon suivante. Tous les participants sont divisés en deux groupes parce qu'il est difficile de faire ça à 140-150. Et dans les deux groupes, ils se divisent en trois cette fois-ci, en représentant la demande, la défense et les juges. Les quatre premières séances sont la préparation en salle, tous ensemble. Et la cinquième séance sera la plaidoirie même, c'est-à-dire que on va faire comme si on était vraiment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La demande va présenter son cas, la défense va présenter son cas et les juges vont délibérer pour trancher à la fin. L'idée est de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans les autres cours. Ils ont des cours sur le système africain des droits de l'homme, sur le système européen, sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc tout ce qu'ils ont acquis pendant les cours, ils ont la possibilité de mettre en œuvre pendant la plaidoirie. Et déjà, les préparations sont très intéressantes parce que on a un public très hétérogène. Il y a des juristes, il y a des non-juristes, il y a des avocats, des magistrats, des chercheurs, des gens qui travaillent à des ONG. Donc, leur apport au cas, leur point de vue est très différent et donc c'est très riche.
Et est-ce que vous parlez des droits de l'homme en Afrique, comme vous en parlez quand vous êtes en Europe, où est-ce qu'il y a des spécificités, peut-être même des différences entre les différents pays dont sont originaires les participants ?
Dans le système africain, on rencontre la notion de peuple. Donc au-delà des droits des individus, des droits de l'homme à proprement parler, c'est le système africain protège les droits de l'homme et les droits des peuples. Il y a cette notion de communauté dont la langue est protégée, par exemple, ou les traditions sont protégées. Et dans le cas fictif présenté pour les plaidoiries, il y a une question de coutume qui apparaît et qui pose la question de savoir si le droit international privilégie la coutume interne, traditionnelle, face aux droits de l'enfant. Et là, c'est une question unique à l'Afrique, parce qu'il y a deux ensembles de droits, les droits de l'homme individuels et les droits des peuples collectifs. Il faut trouver le juste équilibre et c'est une question qui se pose autrement en Europe. Par exemple, on met en balance en Europe les intérêts du collectif face aux intérêts individuels.
Vous êtes à Dakar depuis quelques jours maintenant. Est-ce qu'on vous a posé des questions qui vous ont surprise ?
Une chose qui m'a surpris, c'est que au tout début, quand on essayait de diviser le groupe en trois pour faire la demande, la défense et les juges, tout le monde voulait être à la demande. Donc tout le monde voulait présenter le cas des enfants dans ce jeu parce que ils sont là pour ça, au fait. Les gens qui sont ici, ils veulent lutter pour le droit des enfants. C'est ce qui les intéresse. Donc ils voulaient pas faire l'avocat du diable et essayer de défendre l'État, donc le méchant, dans le cas pratique, même s'il y a des arguments juridiques des deux côtés. Ce qui les intéressait seulement, c'était la protection des droits de l'enfant.
Et c'est comment Dakar quand on porte les lunettes des droits de l'enfant ?
Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup vu Dakar pour le moment, mais on s'en rend vite compte qu'il y a des enfants qui devraient être à l'école, mais qui sont dans la rue en train de mendier. Et on imagine que ce sont des enfants talibés, confiés par leurs parents à un maître religieux pour s'occuper de son éducation, mais qui finissent mendier dans la rue ou qui subissent de mauvais traitements. Sinon, on sait aussi, selon les données de l'UNESCO, qu'il y a une baisse de scolarisation après le primaire. Donc, il y a beaucoup moins d'enfants qui continuent au secondaire. Mais ce ne sont pas du tout des problèmes uniques à Dakar ou au Sénégal. C'est des soucis qu'on rencontre un peu partout dans le monde.
Merci beaucoup pour cet entretien, Bacha Ketkine.
Merci, au revoir.
Et pour finir, puisqu'on parlait de simulation de procès, pour avoir une idée aussi peut-être de ce qui se dit à Dakar en ce moment, voici un court extrait de Bamako, un film de 2006 réalisé par Abderrahman Sissako. Un film dans lequel était organisé dans une cour à Bamako le procès fictif du FMI et de la Banque mondiale. Dans cet extrait, vous entendez le réquisitoire de Maître Aïssa Tall Sall, l'ancienne ministre sénégalaise de la communication, qui s'adresse au président de la cour.
À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, ce n'est pas fini. On privatise l'éducation. Pendant que 2/3 de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance. Ce n'est pas fini, Monsieur le Président. Comment privatiser l'eau? Le Djoliba, le Sénégal, le Zambèze, le Limpopo, nos fleuves? Privatisé avec nos contes, nos légendes, nos traditions, enfuis dans les courants, dans les rivières et dans nos lacs, cela n'est pas admissible. C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non. Vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Il vous appartient, Monsieur le Président, vous, par votre plume, qui rendra la décision. Il m'appartient, moi, par la robe que je porte. Il nous appartient à nous tous, parce que c'est notre devoir de génération de provoquer et de précipiter la venue de ce jour.
C'est la fin de ce numéro de Droits et Libertés. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup à Bachak Etkin. Vous pouvez retrouver nos émissions à podcaster sur notre site internet dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, ne lâchez rien.